Radio de la Paix, la grande interview.
Bruno Coubertin.
Bonjour à tous, bienvenue à la grande interview. La grande interview ce jour, lendemain de la célébration de la Journée nationale de la paix. Notre invité est Monsieur Akassaé Lazare. Monsieur Akassaé Lazare, qui est homme de médias pour tous ceux qui ont suivi la télévision ivoirienne. Il a été directeur général de la RTI, journaliste d'abord, directeur général de la RTI par la suite. Aujourd'hui, il est le président du conseil d'administration de l'AIGF, l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences. Mais ce n'est pas à ce titre-là que nous le recevons, parce que M. Akassaé Lazare, il est le président de la section ivoirienne de la FPU, la Fédération pour la paix universelle. Alors, dans un contexte de paix, nous avons trouvé indiqué, n'est-ce pas, de le recevoir pour parler de paix en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, bonjour.
Bonjour, cher ami.
Merci d'avoir effectué le déplacement dans les studios de Radio de la Paix. Merci pour la promptitude avec laquelle vous avez répondu à notre invitation.
C'est un plaisir.
Ok. Alors, Monsieur le Président, pour commencer, la Fédération pour la paix universelle, si on vous demandait de nous la présenter.
Eh bien, merci. D'abord, j'aimerais, si vous le permettez, remercier les autorités de la radio qui m'accueillent et les remercier pour cette invitation très aimable et qui me permet justement de présenter cette fédération et de présenter ses initiatives. Alors effectivement, la Fédération pour la paix universelle est une organisation, une vision, une initiative. Elle rassemble des individus, des leaders d'opinion, des organisations qui ont tous le même but, construire un monde de paix durable où chacun peut vivre dans la paix et l'harmonie les uns avec les autres. Voilà résumé la définition de la Fédération pour la paix universelle.
C'est une organisation religieuse à l'origine ?
Pas du tout. C'est une organisation, une ONG, hein, oui, non gouvernementale, qui est d'ailleurs partenaire des Nations Unies à travers l'ECOSOC. Elle a été admise au chapitre de partenaire de l'ONU dans le domaine social et de la paix.
Alors, je pose la question parce que la FPU nous a dit que c'était une organisation créée par le révérend Moon.
Mais justement, j'allais en venir. Le fondateur est par essence un religieux. Mais tout à l'heure, nous parlerons du rôle des religieux. Le rôle des religieux, c'est d'amener les hommes à un monde de paix. Ce n'est rien d'autre que ça.
C'est le principe.
C'est le principe. Ouais. Voilà. Un monde de paix avec Dieu au centre, bien entendu. Sinon, on ne parlerait plus de paix. Dans cet homme, le révérend Dr Samia Moon, qui est le fondateur de la Fédération pour la paix universelle, est par définition et par essence un homme religieux. C'est un révérend. Mais sa doctrine et sa philosophie visent un seul but, établir un monde de paix durable où les hommes peuvent vivre en paix avec Dieu au centre.
Alors, comment quelqu'un peut adhérer à une vision si la personne n'adhère pas, n'est-ce pas, aux convictions religieuses de l'initiateur de cette vision?
Ben, malheureusement, on ne peut pas faire la paix sans Dieu. Malheureusement. Dieu, il est incontournable. Parce que Dieu est la source. La source de l'amour dans cet univers, c'est Dieu. Et tous les fondateurs de religion, toutes les traditions religieuses sont unanimes pour l'affirmer que Dieu est notre source commune. Et d'ailleurs, dans le premier principe de paix que nous proposons à l'humanité, c'est de dire que Dieu est la réalité ultime et que nous sommes tous une seule et même famille sous le même Dieu. Et Dieu prend à ce moment-là la position de parent de tous les parents. Et donc, c'est la source ultime. Et nous devons être, pour faire la paix, au service de cette source-là. Donc, qu'on soit croyant en Dieu ou pas, eh bien, la paix est une nécessité absolue pour tout le monde d'ailleurs. On n'a pas besoin d'être croyant pour, pour rêver avoir la paix, n'est-ce pas?
Absolument.
Mais le révérend Moon veut aider l'humanité, croyant ou pas, en leur disant que pour faire la paix, il faut d'abord s'aimer.
On comprend dès lors la complexité de la paix parce que amener quelqu'un qui ne croit pas à un non-croyant à adhérer à la philosophie d'un croyant, c'est une œuvre de titan.
Absolument, absolument. C'est pour ça que vous le constatez sans aucun doute chaque jour ou chaque semaine, nous organisons des cérémonies pour reconnaître à des personnalités le mérite de leur initiative en faveur de la paix. Et nous sommes à l'initiative de ce qu'on appelle aujourd'hui les ambassadeurs de paix. Ce sont des personnalités ou des personnes ordinaires même auxquelles nous donnons cette distinction pour les encourager soit à continuer, n'est-ce pas, leur œuvre et initiative de paix qu'ils ont entreprise, ou alors à les encourager plutôt à quitter le domaine de la violence,
de la belligérance,
merci, pour aller vers celui de la paix.
D'accord, donc je crois que cette précision vaut la peine parce que d'aucuns ne comprendraient pas que dans un contexte où on voit des personnalités qui sont dans une dynamique belliciste, qu'on leur attribue un prix pour dire qu'ils obtiennent un prix de la paix.
Effectivement, vous voyez, M. Brou, Conan Bertin, la paix est une affaire de tout le monde. C'est par ignorance de certains principes que certains hommes politiques ou même certaines personnalités dans tous les domaines peuvent penser que c'est avec la force qu'on fait la paix. Non. Quelque part, le fondateur de notre fédération a dit que l'origine de l'univers n'était pas la force, c'est l'amour. Et que si l'origine de l'univers était la force, la paix serait impossible. Et comme nous croyons en Dieu, Dieu c'est pas la force, Dieu c'est l'amour.
Effectivement. En tout cas, c'est un slogan qui revenait dans les propos, dans les discours de feu, le président Félix Houphouët-Boigny.
Absolument. Et cet homme, je vous dirais que cet homme est une grande figure de notre histoire. Houphouët-Boigny est un grand visionnaire, je dirais même un prophète. Voilà, tout ce qu'il a dit de son vivant, aujourd'hui se réalise. Il a dit que la paix, si on ne se mettait pas ensemble pour construire la paix, si on ne prenait pas soin de notre pays, eh bien, on le regretterait un jour. Et voilà.
Et c'est pourquoi il a proclamé que la paix n'est pas un mot, c'est un comportement.
Et même que la paix était notre seconde religion.
Absolument.
Oui, effectivement. Et le docteur Samia Moon aussi proclame la même chose. Il dit que la paix est une culture, que la paix est un comportement. La paix a un langage qu'il faut apprendre à parler aux enfants. Depuis la famille, qui est la première école, n'est-ce pas, de la paix, n'est-ce pas, et de l'amour, chez les êtres humains, la famille est une institution sacrée où nous tous qui naissons d'une famille apprenons à aimer et apprenons à faire la paix. Donc le Révérend Moon est d'accord avec la vision du président Félix Houphouët-Boigny pour dire que la paix non seulement doit être considérée comme une religion, mais elle doit être aussi considérée comme une culture. Et elle est une culture,
oui. La
culture de la paix.
Et on doit œuvrer, n'est-ce pas, à vivre la paix.
Absolument. Et le Révérend Moon, qui a pensé la paix, eh bien, propose les conditions pour réaliser cette paix, pour qu'elle soit durable. Mm-hmm. Il y a des conditions. La paix des politiciens n'est pas une paix durable. Le Révérend Moon estime qu'il faut que la paix, eh bien, repose sur des principes et que ces principes soient universels, applicables partout. Et le premier de ces principes, c'est qu'il faut que Dieu soit au centre de nos activités, de nos comportements et dans nos relations les uns avec les autres. Oui. Donc Dieu étant l'origine de l'univers et donc de nous tous, c'est de lui, c'est auprès de lui que nous allons apprendre la paix. Or, cette paix-là, elle ne vient pas d'ailleurs que chez Dieu. Et c'est Dieu qui enseigne la paix aux hommes. Donc il faut recourir justement à nos traditions religieuses pour devenir un vrai homme de paix.
Ce qui n'est pas souvent le cas
malheureusement.
Quand on voit au niveau de la sphère politique.
Malheureusement. Parce que c'est l'amour d'abord. Et le Révérend Moon insiste pour dire que s'il n'y a pas d'amour entre nous les êtres humains, la paix sera impossible à obtenir. Pourquoi ? On ne peut pas faire la paix si on ne s'aime pas. On ne peut pas faire la paix dans un pays si les citoyens ne s'aiment pas. Mais pour s'aimer, il faut comprendre que tous les citoyens d'un même pays forment une famille. Mais la famille, qui est le père de cette famille? Qui est le père de la famille ivoirienne? C'est le chef de l'État. Eh bien, c'est ça. Bon, pour l'instant, le chef de l'État lui-même. Et nous tous reconnaissons Houphouët-Boigny comme le père de la nation.
Oui.
Mais heureusement, Houphouët-Boigny a une vision de paix que tout le monde partage. Mais il faut aller, n'est-ce pas, à la source de la vision houphouëtiste pour puiser les valeurs de paix et les pratiquer pour avoir la paix. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Donc aujourd'hui, c'est lui qui remplace le président Houphouët, hein, symboliquement. Et c'est le président Ouattara. C'est le chef de tous les Ivoiriens, ok? C'est le chef de la famille ivoirienne aujourd'hui. Et donc, un chef, qu'est-ce qu'on fait pour avoir la paix? Eh bien, il faut coopérer avec le chef. Il faut servir, n'est-ce pas, la vision de paix. Il faut se mettre au service de la paix et du pays. Il ne s'agit pas de faire la paix pour soi-même ou bien pour un parti politique. Il faut faire la paix pour la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire est en paix, toutes les familles qui vivent en Côte d'Ivoire auront la paix. Mais si le pays n'est pas en paix, aucune famille n'aura en paix. Aucun parti politique ne sera en paix. Donc, le premier objectif que nous devons rechercher à réaliser, c'est la paix pour la Côte d'Ivoire. Et cela dépasse les limites et les barrières politiques.
Okay. Alors donc, vous disiez qu'effectivement, il faut que les populations adhèrent à la vision du chef.
Absolument, à la vision du chef. Voilà. Et le chef lui-même doit adhérer à la vision du père de la nation. Oui. S'il adhère, pourquoi ne pas l'aider? S'il adhère à la vision du premier père de la nation, pourquoi est-ce qu'on ne va pas l'aider? Voilà. Et donc, le premier principe de la paix que le Ramon propose aux hommes pour qu'on fasse une culture, c'est d'être humble.
La philosophie du père fondateur aussi, c'était qu'il a dit qu'aucun sacrifice n'est grand pour la paix. Alors, est-ce que le chef aussi ne doit pas être dans une posture où il puisse être dans la dynamique du rassemblement des enfants? Est-ce que ça ne devrait pas être au moins une mission pour le chef?
Bien sûr, c'est plus qu'une mission, c'est une obligation, ok? Parce que le chef d'une famille, il est le garant de la paix et de la stabilité de cette famille. Lorsque dans une famille, les frères et les sœurs se déchirent, qu'est-ce qu'on fait pour avoir la paix? C'est pas compliqué. Ils doivent retourner à la source, n'est-ce pas, de leur famille, qui sont le père de famille ou même les grands ancêtres. En Côte d'Ivoire, qui est notre grand père? C'est Ouphré Boigny. C'est lui que nous avons connu quand ce pays a recouvert l'indépendance. Donc, on le considère comme le père ou l'ancêtre de la Côte d'Ivoire. Donc, quand une famille, ça ne va plus dans une famille, eh bien, tout le monde doit s'entendre pour préserver la famille en recourant au père fondateur. Qu'est-ce que le père fondateur nous a laissé comme héritage en termes de valeurs de paix? Et tout le monde s'accorde pour vivre ces valeurs, pour que la famille retrouve la paix. C'est comme ça se passe. Dans un pays, c'est la même chose. Dans un pays, les citoyens doivent retrouver leur sens de responsabilité par rapport à l'intérêt de leur pays. Et l'intérêt du pays est supérieur aux intérêts des partis politiques et des individus. Ça aussi, les gens ont tendance à l'oublier, ok?
Malheureusement, c'est pourquoi vous disiez tout à l'heure que la paix dans le domaine politique, la paix n'est pas durable, parce que ici se jouent des intérêts personnels.
Absolument. Or, justement, il n'y a pas meilleur poison, n'est-ce pas, contre la paix que l'égoïsme, que les replis identitaires, que les replis politiques. Ça, c'est les poisons de la cohésion et de la paix dans une nation, dans un pays, une nation en construction. Il faut dépasser les intérêts partisans dans l'intérêt supérieur de la nation. Ouphré Boigny, notre père fondateur de la Côte d'Ivoire, le disait souvent. Il faut dépasser les égoïsmes pour que la Côte d'Ivoire seule compte pour nous. Et donc, il faut faire attention quand on fait la politique. C'est bien dans l'intérêt des citoyens qu'on fait la politique. C'est pas dans l'intérêt d'un parti politique qu'on fait la politique. Je ne sais pas si on se comprend.
Oui.
Et je dis souvent dans mes commentaires sur la paix que la démocratie, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas la démocratie qui va amener la paix. C'est la paix qui amène la démocratie. Donc, il ne faut pas qu'on se trompe, n'est-ce pas, de cible. Et donc, nous disons qu'il faut être croyant dans tous les cas. Parce que si vous n'êtes pas croyant en Dieu, vous feriez n'importe quoi. Vous pouvez tuer même sans regretter.
Alors, monsieur le président de la Fédération ivoirienne pour la paix universelle, je rappelle que la grande interview reçoit donc monsieur Akasaye Lazare, président de la Fédération pour la paix universelle. Alors, ce 15 novembre est jour de célébration de la Journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire. Et c'est une journée qui a été créée justement pour magnifier l'œuvre de paix du président Félix Houphouët-Boigny.
Absolument.
Et c'est une célébration qui se passe dans un contexte où il ne faut pas se voiler la face. La situation politique est des plus délétères. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que les Ivoiriens parlent le langage de la paix?
Écoutez, M. Boukounambertin, je vous l'ai dit tantôt, la première condition de la paix au niveau d'une nation, d'un pays, c'est l'unité autour du leader. L'unité autour du leader que nous reconnaissons tous comme notre leader. Tout comme un parent peut intercéder entre les enfants qui sont en crise et ramener la réconciliation, le père ou le leader d'une nation, il faut le voir comme un parent. Il faut le voir comme le père de la nation. C'est très important. Et lui doit nous voir, tous les citoyens, comme ses enfants. C'est très important. C'est une philosophie, c'est une doctrine de paix. Ouais. Mais si vous voyez le chef de l'État autrement que le père de la famille ivoirienne, alors il y a problème. Mais le père de la nation n'est pas parfait. Il a une position de responsabilité. S'il commet des erreurs, il y a la manière dans une famille de poser des problèmes à son père ou au père de la famille avec politesse, avec beaucoup d'égard, mais tout en y mettant, n'est-ce pas, tous les sens de responsabilité. Il ne s'agit pas de défier le père ou l'autorité du père. C'est un mauvais chemin. Dans tous les cas, le père, il est dans cette position de père, il n'est pas éternel. Mais le temps où il est dans cette position de père, il faut le respecter. Il faut l'aider.
Alors aujourd'hui, la situation est là. Et c'est vrai, vous nous dites ce que les citoyens doivent faire. Comment est-ce qu'ils doivent adhérer à la vision du chef? Comment est-ce qu'ils doivent être unis autour du père de famille? Maintenant, la réalité est qu'aujourd'hui, ce père de famille est confronté à une situation où il y a certains de ses enfants, entre guillemets, qui sont hors de la maison. Quelle est la mission du chef aujourd'hui?
La mission du chef, lorsque la famille, je viens toujours à la notion de famille.
Absolument.
Ah oui, c'est fondamental. Parce que la famille traverse une crise, ou quand les frères et sœurs se déchirent, voilà, le chef de l'État, qui est le chef de la famille, a une grande responsabilité. C'est-à-dire qu'il est obligé d'intercéder, il est obligé de réconcilier, il est obligé de rapprocher, n'est-ce pas,
oui,
les opinions, les positions pour qu'il y ait la paix. Parce que lui-même a besoin de la paix pour travailler.
Absolument.
Alors, je disais que le chef de famille ne doit pas être un adversaire des frères et sœurs que nous sommes. Ok?
Est-ce que dans la situation présente, il peut se faire que le père ou le chef de l'État n'est pas un adversaire véritablement direct pour certaines personnes, mais il y a aussi que dans l'entourage du chef, il y a des positions qui amènent, n'est-ce pas, aux crispations?
Alors, effectivement, j'ai parlé tantôt de démocratie. La démocratie, mon cher Burkina Bertin, est une idéologie. C'est une idéologie qui est fondée sur quoi? Qui est fondée sur la fraternité. Il y a beaucoup de pays qui ont dans leur devise la fraternité. Dans notre hymne national, on parle de fraternité.
Oui.
Donc, la démocratie est une idéologie de frères. C'est là où il y a le problème. Il nous faut trouver un père, parce qu'on parle de famille. Il n'y a pas de paix s'il n'y a pas de famille.
Oui.
La Côte d'Ivoire peut retrouver rapidement la paix si nous nous reconnaissons tous en un père, en un leader qui symboliquement représente notre père.
Oui.
Eh bien, ce père-là, d'abord, il doit être au-dessus des clivages. Ça, c'est très important.
Et donc, il a ce devoir d'interpellation dans son cercle le plus restreint.
Absolument.
De ceux de ses enfants qui prennent des positions qui ne sont pas de nature à ramener la paix dans la
Exactement.
Famille.
Exactement. C'est son rôle, c'est son devoir. Sans parti pris, il doit interpeller tous ceux qui sortent du cadre qui doit nous amener la paix. Il doit les interpeller. Et je suis sûr que en l'espèce, notre chef interpelle très souvent les uns les autres, que ce soit dans l'opposition ou dans son propre parti. Mais tel que nous le connaissons, ce n'est pas être partisan que de dire que ce chef qui est là aujourd'hui, bien qu'il soit chef d'un parti, n'a pas un comportement partisan. Et même s'il est partisan, il est obligé, n'est-ce pas, il est obligé d'être au-dessus de son parti. Et donc, il interpelle. Et celui qui ne veut pas entendre raison, eh bien, à ce moment-là, il y a des règles et des textes, des lois qui régissent notre pays, qui nous permettent de corriger certains comportements déviants. Parce que la chose la plus précieuse aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est la paix. Il ne faut pas jouer avec. Et je le disais une fois au cours d'une conférence, que la paix, ce n'est pas une question de gentillesse. Non, ce n'est pas parce que tu es gentil avec moi que tu es forcément un homme de paix. La paix, c'est un comportement. Et c'est un comportement qui doit se voir dans nos actions, dans nos propos. Et nous devons, tout en ayant des relations normales avec les uns les autres, montrer ces valeurs-là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous devons privilégier toujours l'intérêt général. Quand on est dans une famille, c'est d'abord l'intérêt de la famille. Dans un pays, c'est l'intérêt du pays. Aujourd'hui, la paix en Côte d'Ivoire est au-dessus de toute considération, quelle qu'elle soit.
Ok. Alors aujourd'hui, nous nous acheminons vers 2020. 2020 qui est une année, on dirait, très cruciale dans la vie de la Côte d'Ivoire parce que 2020 est une année électorale. Et à l'approche, n'est-ce pas, de cette échéance, la situation n'est pas rassurante. Les comportements, les propos, les positions font qu'il y a des souvenirs qui reviennent. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui doit être fait pour que 2020 ne soit pas un cauchemar pour les Ivoiriens?
C'est une très bonne question. Cela m'amène à vous parler du deuxième principe qui fonde la paix, mais la paix durable. Il faut savoir que la nature même des êtres humains que nous sommes est avant tout d'ordre spirituel et moral. Par conséquent, en vivant comme un citoyen dans un pays comme la Côte d'Ivoire, en tant que citoyen, nous devons prendre garde de ne pas heurter le cœur de nos frères et de nos sœurs par des propos violents, par des comportements de violence. Parce qu'on a en nous un fondement moral et spirituel qui sont les ressorts de la paix. Mais lorsque, dans une société donnée, une communauté donnée, certains prennent plaisir à choquer les autres par leurs propos, la paix est menacée.
Ce que vous dites, cela est valable aujourd'hui de part et d'autre.
Bien sûr, bien sûr. On doit savoir, une fois pour toutes, que la paix n'est pas une question de violence. Violence, quelle que soit sa forme, n'amènera jamais la paix. Et si nous voulons la paix, nous devons mesurer nos propos. On peut dire la même vérité à quelqu'un, mais avec des propos qui ne blessent pas.
Tout est dans la forme.
Exactement. Pourquoi ne pas essayer? Et puis, je sais que la Côte d'Ivoire est un pays de tradition religieuse, malgré les différences. Mais pourquoi donc nous n'utilisons pas les valeurs religieuses qu'on nous a enseignées dans notre vie quotidienne? Il y a l'enseignement chrétien qui est là, qui nous enseigne quoi? Il faut s'aimer, il faut pardonner, il faut même prier pour son adversaire. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de répondre à une agression verbale par la même violence verbale? Pourquoi? Pourquoi on ne ferait pas au moins l'expérience de l'amour vrai, n'est-ce pas? Je crois que ce dont on a besoin en Côte d'Ivoire, c'est d'abord la paix, que chacun devienne d'abord un ambassadeur de paix. C'est très important.
Un ambassadeur et un artisan?
Un artisan de paix. La mission de l'ambassadeur de paix, c'est qu'il est artisan de paix.
Absolument.
Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit être une personnalité, une personne, n'est-ce pas, qui inspire confiance. Dans le sens où on ne l'a jamais vu, n'est-ce pas, sur un terrain de violence, un terrain d'agression,
de défiance.
À propos de défiance, prenons simplement la Côte d'Ivoire comme exemple. Pensez-vous, M. Boukoulan-Bertin, que c'est nécessaire de défier un pouvoir, un régime pour avoir la paix? Ce n'est pas nécessaire. En tant qu'homme de paix, nous avons un devoir. Lorsque le pouvoir en place commet des erreurs, on le lui dit. Vous avez fait ceci, vous avez fait cela, telle décision. Nous pensons que c'est une erreur. Il faut corriger cela pour que la paix ou pour que le pays aille de l'avant. On ne peut pas dire ça à un pouvoir. On ne peut pas lui dire qu'il faut changer, ce n'est pas la bonne direction. Ou bien je propose que ce soit plutôt comme ça. Peut-être que de dire, de défier un pouvoir. On ne peut pas défier un pouvoir. Si on le défie, il n'y a pas la paix. Parce que de la manière dont un pouvoir s'en va, eh bien, ça va se retourner après contre vous qui serez à sa place un jour. Donc, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, l'Évangile, qui tue par l'épée, par l'épée. Donc, je crois qu'on a intérêt tous, le pays nous appartient à nous tous. Il faut mettre bas la terre, il faut aider celui qui est là à bien finir son mandat et à partir en paix.
Ok. Lazare Akassaye, nous allons terminer. Donc, oui. Pour terminer, le message par rapport, n'est-ce pas, à ces craintes, à ces doutes sur 2020, quel est le message que vous voudrez bien apporter?
Alors, j'aimerais finir par les cinq principes en résumé. Les cinq principes de la paix, c'est très important. Tout à l'heure, je le rappelais, le premier principe pour qu'il y ait la paix, c'est vraiment le premier, parce qu'il est le plus important, c'est que nous devons partager les mêmes valeurs de paix. Et en voilà une de ces valeurs. C'est que, qu'on soit croyant ou non, nous savons qu'il y a un être supérieur. Un être qui a fait que nous sommes là où nous sommes, dans cet univers. Et cet être, lui-même, on l'appelle Yahvé, Allah ou je ne sais quoi d'autre, Adonai, sa définition c'est l'amour. Ce n'est pas la force. Dieu, ce n'est pas la force. Et donc, vis-à-vis de cet être supérieur, qui est la source, nous sommes des frères et sœurs. Donc, nous sommes comme une famille. C'est très important, Boukoulan Bertin.
Oui.
Nous sommes une famille. Ivoirienne, nous sommes une famille, la famille ivoirienne. C'est pareil pour les Ghanéens, pour les Guinéens, pour les Burkinabés, pour les Nigériens. Nous formons une famille. Même la famille ivoirienne s'élargit pour aller vers les familles des autres nations. Et là, on parlera dans la même logique de la famille africaine.
Absolument.
Et la famille mondiale. Mais au-dessus, il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui s'appelle Amour. Et c'est ce que notre père fondateur n'avait de cesse de répéter. Dieu est amour. Et c'est la vérité. Deuxième principe, c'est que nous avons une nature en tant qu'être humain, acteur de paix ou acteur de violence. De quel côté nous voulons nous situer ? Naturellement, du côté de la paix. Mais en nous, il y a une nature. Et cette nature-là, pour que nous arrivions à la maîtriser et à la gérer dans le sens de la paix, c'est une nature qui est morale et spirituelle. Donc, la morale et le spirituel sont très importants pour faire la paix. Nous devons puiser dans notre fondement et notre nature tout ce qui est valeur spirituelle, valeur morale, pour faire la paix, quelles que soient nos confessions religieuses. Ensuite, le troisième principe, c'est la famille. Et là, j'aimerais insister. Je ne connais pas d'êtres humains qui soient sortis de nulle part si ce n'est pas d'une famille. Mais la famille, où est-ce que l'on va pour apprendre la paix, la réconciliation, la cohésion, c'est où ? Mais ce n'est pas dans une université théologique, c'est dans la famille. La famille est très importante. C'est la première école, la première institution où nos parents, qui sont en position de Dieu pour nous, nous enseignent comment nous aimer entre frères et sœurs. C'est pas ça ?
C'est ça.
C'est sûr, voilà. C'est dans la famille que les enfants apprennent à cultiver des cœurs, leur cœur fraternel, à s'aimer comme des frères et sœurs. Donc l'amour fraternel est le fondement qui nous permet d'aimer les personnes qui sont au-delà de nos familles. C'est important que nos familles soient solides pour éduquer les enfants à l'amour et à la paix. Très important. Troisième pilier. Le quatrième pilier, c'est fondamental également, c'est vivre pour les autres. Tant qu'on ne vivra pas pour les autres, tant qu'on se contentera de vivre pour nous-mêmes, de façon égoïste et égocentrique, la paix sera difficile à construire. Ça, c'est valable pour nous les Ivoiriens. Il ne faut pas que nous vivions dans l'égoïsme, dans le repli. On ne veut pas vivre pour soi-même, pour sa famille, pour son parti politique. Le reste, on s'en fout. Non, c'est le reste même qui est important par rapport à notre parti politique. La nation, le pays, les Ivoiriens. Donc, le principe de vivre pour les autres est très important pour qu'il y ait la paix. Et le cinquième et dernier pilier qui fonde la paix, mais une paix durable, eh bien, c'est que la paix ne peut pas s'établir si ceux, les acteurs qui doivent la bâtir et la construire, vivent chacun dans sa chapelle. C'est-à-dire si les catholiques vivent centrés sur eux-mêmes, les protestants, les aristes et tout ça, et les ethnies et les cultures, et etc., n'aura pas la paix. La paix se construit en se donnant la main. C'est à travers une coopération sincère. Tout à l'heure, je parlais des citoyens et du chef d'un pays, de l'État. Mais les citoyens doivent coopérer avec le chef, même s'ils sont dans l'opposition, doivent coopérer pour préserver ce qui est plus cher pour nous tous, c'est la Côte d'Ivoire. Donc la coopération, n'est-ce pas, interreligieuse ou internationale, la coopération entre les partis politiques, la coopération entre les différentes cultures est importante pour qu'il y ait la paix, mais une paix durable pour tous.
Lazare Akassaye, président de la Fédération pour la paix universelle, invité de la grande interview ce jour. Monsieur le Président, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Bonne journée à tous.
Brooke Bertin. Vous venez de suivre la grande interview.